Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi en direct de Roland-Garros. Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, vous le savez, comme tous les jours. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi avec à la une ce pont de l'Ascension qui débute aujourd'hui. Vous êtes des millions à en profiter. On ira à la gare Montparnasse à Paris qui dessert tout l'ouest de la France. On partira également au fort de Brégançon où se trouve Emmanuel Macron. La justice administrative dit non au burkini dans les piscine publique de Grenoble au nom de la neutralité du service public. Mais le maire de Grenoble veut poursuivre sa croisade, pour reprendre l'expression d'Alain Carignon. Victor Chabert sera avec nous. Une femme battue lance un SOS discret dans une pharmacie. Son mari, violent, qui l'accompagnait, s'est fait arrêter par la police. Mélina Fachin va nous raconter cette histoire qui s'est déroulée près de Strasbourg. Dans Europe Midi, on sera en direct avec Anne Jouan, qui est journaliste à Paris Match. Anne Jouan qui signe un reportage choc sur l'hôpital Saint-Louis à Paris, où les soignants, malgré une charge de travail très importante, ont des salaires qu'on peut qualifier sans se tromper de modestes. Vous verrez. Roland Garros avec Axel May et Cédric Pioline. Une Française est sur les cours. Léolia Jean-Jean, c'est son premier tournoi du Grand Chelem. Fin du retrait de points sur le permis pour les petits excès de vitesse. Attention, ce n'est qu'un projet. On en parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous appelez le 3921. Le burkini, la crise à l'hôpital public. On va en parler avec vous au 3921 et avec Xavier Iacovelli. Bonjour Xavier Iacovelli.
Bonjour Romain.
Sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine et avec Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin Cauchy.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous également, porte-parole du parti Reconquête, et à tout de suite tous les deux.
Europe 1.
Ce jeudi est peut-être le premier jour du week-end pour vous. C'est le pont de l'Ascension, le seul pont du mois de mai. Cette année, forcément, vous êtes nombreux à partir pour changer d'air. Et comme tous les jeudis de l'Ascension, c'est le branle-bas de combat dans les gares, notamment à Paris, à Montparnasse, où vous vous trouvez, Arthur Pereira.
Oui, tout à fait, Romain. Depuis ce matin, les voyageurs défilent sous les panneaux d'affichage. Une valise dans chaque bras. Guillaume surveille aussi ses deux petites filles qui ont hâte de voir la mer. Direction le golfe du Morbihan pour ces 4 jours.
Pour quelques jours, c'était la bonne occasion de se retrouver entre amis et pour couper un peu avec le travail. Le programme, c'est d'avoir loué une maison avec un jardin et surtout de ne pas faire grand-chose dans cette maison avec ce jardin pour se reposer et faire des barbecues. Voilà, voilà.
Comme chaque année, c'est l'île de Ré pour Marie et Angélique, un week-end entre amis pour un moment de partage.
Apparemment, jusqu'à lundi, il va faire beau. On fait du vélo, on s'amuse, on fait des bonnes bouffes, des bons barbecues, on picole.
4 jours, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille. Hugo travaille à Valenciennes. Il n'a pas vu ses parents depuis 3 mois, alors ce week-end prolongé tombe à pic.
Retrouver les parents, les amis. En plus, il y a la finale de rugby du stade Rochelet que je vais pouvoir aller regarder sur le Vieux-Port. Donc c'est parfait, ça tombe le bon week-end. Avec les amis, ce sera parfait.
Et en ce milieu de journée, il y a de plus en plus de voyageurs qui prennent le départ pour ce long week-end. Ce sont près d'1 million de personnes qui vont circuler dans les gares de l'Hexagone entre ce jeudi et dimanche soir.
Voilà, de beaux programmes en perspective. Merci Arthur Pereira. Sur les routes, beaucoup de monde également. Bison Futé classe tout le pays en rouge aujourd'hui dans le sens des départs. Ce sera noir dimanche dans le sens des retours. Lui aussi a décidé de prendre l'air pour profiter de ce pont de l'Ascension. Emmanuel Macron est au fort de Brégançon. Il va y passer tout le week-end, le président de la République. Frédéric Michel qui va recharger les batteries, mais les dossiers brûlants du moment ne sont jamais très loin, forcément.
Effectivement, d'ailleurs, le séjour, nous dit-on, sera studieux. Le président a prévu de travailler à son bureau au 2e étage du fort avec vue sur mer, quand même. En fin de matinée, il avait un rendez-vous téléphonique prévu avec le président turc. Depuis son premier mandat, le chef de l'État a pris pour habitude de passer ce long week-end de l'Ascension au fort de Brégançon. Le couple Macron y vient aussi l'été. Le président est arrivé en toute discrétion hier soir dans le Var. Ses touristes lillois le confirment.
On sait qu'il est là, puisqu'on a posé la question, on nous a dit affirmatif. Donc on sait que le couple est là, mais on ne l'a pas vu, non, encore. Bon, on ne va pas passer notre journée ici à attendre.
Alors sur la plage qui donne sur le fort, les touristes informés de la présence du couple présidentiel sont, vous allez l'entendre, plutôt bienveillants.
Alors je ne crois pas qu'il va se baigner sur la plage. On va dire qu'on a un bout de vue en commun.
aujourd'hui. C'est rigolo pour les enfants surtout.
Oui.
T'aimerais bien le voir?
Oui.
Bah, tu dirais que tu voulais voter pour lui?
Oui.
Et même ceux qui n'ont pas voté pour le président comprennent qu'il se plaise ici à Brégançon.
Il est tranquille, il est bien, et puis il a la mer, le soleil et tout. C'est super.
En tout cas, que ça lui prenne le goût de l'écologie, de la nature et de la préservation.
Voilà, le message est lancé. On ne sait pas si le président a prévu de sortir, s'il a prévu d'aller au contact des Français. Une chose est sûre, il profitera du soleil et des températures quasi estivales.
Merci beaucoup Frédéric. Mais dites-nous Frédéric, vous êtes les pieds dans l'eau, on entend la mer.
Oui, je suis à vraiment deux pas de la mer et je crois que je vais aller goûter cette mer en Méditerranée qui nous tend les bras.
Vous avez bien raison. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Michel, voilà, en direct à quelques pas donc du fort de Brégançon. De son côté, Elisabeth Borne, la première ministre, va se rendre cet après-midi dans le Loiret. Elle va visiter une exploitation agricole touchée par la sécheresse ces derniers jours. Un premier revers pour le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, dans sa campagne pour le Burkini. Le tribunal administratif a suspendu l'autorisation du port du Burkini pour se baigner dans les piscines grenobloises. La justice estime que cela porte gravement atteinte au principe de neutralité du service public. Éric Piolle ne jette pas l'éponge pour autant. Il fait appel devant le Conseil d'État. Bonjour Victor Chabert.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Éric Piolle qui est très critiqué, hein.
Oui, d'ailleurs, Gérald Darmanin demande des excuses à Éric Piolle. Le ministre de l'Intérieur salue cette décision du tribunal administratif de Grenoble. Il vante un résultat provenant de la loi séparatisme voulue par Emmanuel Macron et votée en 2021. C'est cette loi qui permet en effet de demander la suspension d'un acte d'une collectivité qui porterait gravement atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics. Alors évidemment, c'est à droite que les réactions sont les plus nombreuses. Christian Jacob, le président des Républicains, veut un nouvel encadrement du Burkini. Il souhaite reprendre une proposition de loi visant à l'interdire dans les piscines publiques au nom de la laïcité déposée ce mois-ci par le député LR Éric Ciotti. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a promis de suspendre les subventions à la ville de Grenoble après la délibération du conseil municipal, a déclaré lui sur Twitter que le séparatisme ne passerait pas. Du côté du RN aussi, on veut légiférer. Pour Marine Le Pen, le Burkini est un habit de propagande islamiste. Elle promet que les députés Rassemblement National élus aux élections législatives proposeront une loi pour l'interdire définitivement. À gauche, pour l'instant, peu de réactions.
Merci beaucoup Victor Chabert. La tristesse toujours immense évidemment aux États-Unis après la tuerie du Uvalde au Texas. 21 morts dont 19 enfants d'une dizaine d'années abattus par un adolescent de 18 ans dans une école primaire. Il avait posté des messages sur les réseaux sociaux annonçant le massacre quelques minutes avant de passer à l'acte. Alors bien sûr, cette tragédie relance l'éternel débat sur le port d'armes aux États-Unis, mais dans la ville du Uvalde, l'heure n'est pas du tout au débat, mais au recueillement. Reportage sur place pour Europe 1 de Aviva Fried.
Un violon qui résonne, des larmes qui coulent, Uvalde se recueille et pleure ses morts. Dans la salle qui accueille d'habitude les rodéos, des milliers de personnes sont venues communier, prier ensemble.
Nous prions pour notre communauté, pour nos enfants qui ont été affectés et toutes les familles de cette communauté.
Colin Jeziorski serre très fort contre elle son fils Ilai qui n'a que 4 ans. Au lendemain du massacre qui a tué 19 enfants, elle ne pouvait pas imaginer ne pas venir avec le reste de la ville.
En arrivant ici, j'avais juste envie de pleurer. Je crois que toute la ville est ici. C'est beau de voir les gens qui se soutiennent, mais c'est dur, vraiment dur.
Toute la ville d'Uvalde est en deuil. Le massacre laissera sans doute une trace indélébile sur la petite ville. À Uvalde, Aviva Fried, Europe 1.
Et demain, hasard du calendrier, doit se tenir le congrès annuel de la NRA, le principal lobby des armes aux États-Unis. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a confirmé sa présence. Il prendra la parole. Il est midi 9, restez bien avec nous. Une histoire est dans un instant dans ce journal d'Europe Midi. On ira près de Strasbourg. Une femme battue a trouvé un moyen très discret pour mettre fin à son calvaire. Son mari violent a été arrêté par la police. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Europe Midi en direct de Roland-Garros. Cette information du service police-justice d'Europe 1. Un trio de malfaiteurs albanais a été interpellé le week-end dernier après une série de cambriolages dans des résidences huppées de la région parisienne. Une fois au commissariat, ils ont reconnu les faits, mais en les interrogeant, les policiers ont découvert qu'ils avaient mis la main. Gladys Lafitte, bonjour Gladys.
Bonjour.
Qu'ils avaient mis la main sur des voyous connus à l'international.
Et oui, hein, le trio de malfrats albanais avait déjà opéré à Berlin, en Italie, jusqu'en Belgique, avant de s'en prendre aux habitants de l'ouest de la capitale française. Et toujours avec le même mode opératoire, le soir, ils escaladaient les immeubles des belles résidences jusqu'au premier étage avec balcon, repéraient les logements vides de leurs occupants, l'un restait pour faire le guet, tandis que les deux autres volaient tout ce qu'ils pouvaient dans l'appartement, principalement des bijoux et de l'argent liquide. Un trio expérimenté donc, sur lesquels sont tombés par hasard les policiers de la BRB, la brigade de répression du banditisme, alors qu'ils étaient en surveillance dans une autre affaire. Les enquêteurs les ont donc interpellés. Ils ont reconnu les faits pour au moins 4 cambriolages le week-end dernier. Ils ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès qui se tiendra le 1er juillet prochain.
Gladys Lafitte, merci beaucoup Gladys. Écoutez bien cette autre histoire. Mardi après-midi, dans une pharmacie d'Ilkirch Grafenstaden, c'est près de Strasbourg, une femme battue, enceinte, a pu alerter une pharmacienne en toute discrétion. Ça peut donner des idées à d'autres victimes. Cette femme avait écrit SOS sur l'ordonnance qu'elle a tendue à la pharmacienne, et ce, alors que son mari était juste à côté. Mélina Fachin, en direct de Strasbourg. Bonjour Mélina.
Bonjour Romain.
Vous avez pu visionner la vidéo de vidéosurveillance, hein ?
Oui, et les images font froid dans le dos. On y voit clairement cette jeune femme, enceinte de plusieurs mois, tendre son ordonnance à la pharmacienne. Dans le coin de la feuille, elle tapote discrètement du bout du doigt le mot SOS qu'elle a griffonné elle-même. Et elle plante plusieurs fois son regard dans les yeux de la pharmacienne avec insistance. On comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Un mètre derrière elle, son conjoint, les bras croisés, les sourcils froncés, ne voit rien. La pharmacienne garde son calme, part en arrière-boutique de longues minutes, comme le raconte Isabelle, sa responsable.
Dans le doute, j'appelle les secours quand même et ils me disent qu'on fasse notre possible pour garder les gens à l'officine et qu'ils arrivent tout de suite. Donc je descends et effectivement, je vois qu'elle me regarde avec insistance, mais vraiment un regard soutenu.
Il faut maintenant jouer la montre, gagner du temps. Au comptoir, l'homme commence visiblement à s'impatienter. Il s'agite. Isabelle décide alors de trouver un prétexte pour faire passer cette femme dans l'arrière-boutique.
Donc on invente une prise de mesure. Et là, effectivement, elle fond en larmes, elle tremble, elle est toute stressée. Elle nous dit que son compagnon est violent, qu'il a tout cassé chez elle, qu'elle est désolée.
La police finit par arriver sur place au bout de quelques minutes. Elle arrête cet homme soupçonné de violence et le place en garde à vue.
Merci beaucoup Malina Fachin, en direct de Strasbourg. L'ancien directeur du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, mis en examen pour blanchiment et escroquerie en bande organisée. Il est accusé d'avoir fermé les yeux sur de faux certificats d'origine de 5 pièces d'antiquités égyptiennes, pièces acquises par le Louvre Abu Dhabi pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Il est midi 14, le point Roland-Garros, tout de suite.
Roland-Garros 2022.
L'événement tennis est sur Europe 1.
Axel May avec nous. Axel, bonjour.
Bonjour, Romain.
5 Françaises et Français aujourd'hui sur les cours pour le deuxième tour de Roland-Garros. Et en ce moment, la jeune Léolia Jean-Jean, 227e mondiale, qui affronte la tête de série numéro 8, Karolina Pliskova.
Ouais, et quand je vous parlais tout à l'heure de cette jeune joueuse, Romain, je vous disais attention, à midi, peut-être que si c'est un match à sens unique en faveur de Pliskova, le match sera plié en moins d'une heure. Eh bien non, là c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Jean-Jean avance à une vitesse supersonique façon Top Gun. Elle a remporté, Jean-Jean, rendez-vous compte, c'est son premier tournoi du Grand Chelem à 26 ans. Elle est déjà au deuxième tour et elle a remporté 6-2 la première manche face à Pliskova, ancienne numéro 1 mondiale qui a encore été finaliste à Wimbledon l'année dernière. Eh bien, elle a remporté 6-1 la première manche et elle mène 5-1 dans la deuxième manche avec pour l'instant balle de service, c'est 40 partout dans le dernier set, et dans le dernier jeu pardon, peut-être le jeu décisif avec Pliskova qui est au service. Bref, on va peut-être avoir Jean-Jean qui se qualifierait, imaginez ça, pour le troisième tour, elle qui n'est que 227e mondiale. Bref, un exploit comme on les aime ici à Roland-Garros.
Merci beaucoup Axel, on croise les doigts pour elle. Bonjour Cédric Pioline.
Bonjour Romain.
Cédric Pioline, tous les jours évidemment dans Europe Midi. Bon, on espère père pour donc Léolia Jean-Jean. Pour Diane Paris, c'est passé. Elle est au troisième tour. On aura au moins un représentant tricolore au troisième tour, hein, Diane Paris.
Oui, oui, bah c'est génial. Et c'est surtout bien, après avoir sorti la tenante du titre au premier tour, d'avoir confirmé. Parce que souvent, on crée l'exploit et puis on est un petit peu aspiré par le jeu médiatique, par on sort du tournoi en se disant « mais c'est incroyable, j'ai fini mon tournoi alors que c'est juste un match ». Et non, elle a su se remobiliser. Donc, elle a gagné d'ailleurs d'une manière autoritaire, hein, 6-3, 6-3 hier. Donc, bravo à elle et j'espère qu'elle va continuer à nous faire vivre de belles choses.
C'est une graine de vedette, c'est une graine de grande joueuse plus précisément.
Elle a beaucoup de qualités, elle est toute jeune d'abord.
Le mental.
Elle a du mental, elle a beaucoup d'ambition et elle a des qualités dans son jeu qui, à mon sens, devraient lui permettre de vraiment grimper au classement. Alors après, c'est toujours compliqué, hein, de dire est-ce qu'elle sera top 10, top 20, top 30, mais potentiel top 30, moi j'en suis persuadé.
On attend aujourd'hui également, Cédric Pioline, les matchs des Français, Caroline Garcia, Alizé Cornet, Gilles Simon, Hugo Gaston. Ils peuvent passer le deuxième tour ?
Bah on l'espère, oui. Ouais. Bah c'est le principe du sport, c'est ça la beauté, c'est que lorsqu'on rentre sur le court, on a toujours une chance de gagner. Ce qui est important, hein, je dirais, dans ce genre de circonstances, c'est toujours de soigner les débuts de match pour vraiment prendre confiance. Alors même si en tant que Français, on a l'appui du public, on a cette énergie qui survolte, qui nous porte. Et d'ailleurs, Gaston en profite énormément. Hein, il sait bien jouer avec ça. Donc soyez un peu cocorico et disons-nous qu'il y en a quelques-uns qui vont passer pour qu'on continue à rêver français.
Ça aide vraiment les sportifs, hein, quand le stade est avec eux.
C'est la chance. Alors parfois, ça va dans les deux sens. Parfois, c'est annihilant et parfois, c'est portant, c'est euphorisant. Donc, il y a tout un petit jeu à faire avec ça, une habitude à avoir. On se rappelle de certains joueurs, joueuses qui étaient écrasés par Roland Garros, alors qu'en fait, il y a une énergie incroyable. Et lorsqu'on sait l'utiliser, c'est un carburant qui est phénoménal. On peut quelque part surjouer un petit peu, mais bon, ce qui est le but, parce que c'est le rêve de tout Français ou Française de bien jouer ici à Roland-Garros.
Cédric Pioline, tous les jours dans Europe Midi. Merci Cédric et à demain. Il est à midi 18, c'est l'heure de la météo. Avec vous Anissa Haddadi, le ciel s'éclaircit légèrement cet après-midi. Hein.
Oui, ça va aller un petit peu mieux. C'est pas du grand soleil, mais nous avons effectivement, après cette matinée bien grise sur la majorité des régions, un peu plus d'éclaircies. Ça concerne les Hauts-de-France, le Grand Est, le bassin parisien, le centre, où là, les éclaircies sont bien plus présentes cet après-midi. On a un ciel partagé entre nuages et quelques rayons de soleil. En revanche, dans le Nord-Ouest, du côté de la Basse-Normandie jusqu'au Pays de la Loire et même jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, on a un ciel qui reste très couvert. Dans le Sud-Est, comme ce matin, entre les Alpes du Sud et la Méditerranée, c'est très ensoleillé avec un risque d'averses orageuses sur les Alpes du Sud et puis toujours ce Mistral et cette tramontane qui souffle jusqu'à 70 km/h. Les températures, elles sont très contrastées entre le Nord et le Sud. 18 à Brest, 20 à Biarritz, 23 à Paris et Marmande, 25 à Lyon, 28 à Bastia et jusqu'à 30 degrés pour Montpellier.
Merci beaucoup Anissa. Midi 19, restez bien avec nous dans Europe Midi dans un instant. On sera avec Anne Jouan, journaliste à Paris Match, qui signe un reportage édifiant sur l'hôpital public. On en débattra avec vous. On va parler également du burkini et des points sur le permis de conduire. On en parle avec vous au 39-21. Et avec le sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli, et avec le porte-parole du parti Reconquête, Benjamin Cauchy. A tout de suite.